Radio Kapi. Oh,
Kapi. La grande édition du journal parlé, c'est tout de suite avec Babel Pongo Massimango.
Nous serons au Nord Kivu. La situation humanitaire continue de se détériorer à Bwito, dans Rutshuru. Conséquence des affrontements réguliers entre l'AFC M23 et différents groupes armés locaux. Une trentaine de blessés par balle ou obus sont actuellement soignés par Médecins sans frontières. Les populations jetées sur les routes survivent difficilement. Dans le Holomami, le choléra est en nette progression à Bukama. Plusieurs zones de santé sont touchées. Une situation aggravée par des inondations. Vous suivrez des précisions du ministre provincial de la Santé, Adela Kumba. Le Centre de recherche en finances publiques et développement renforce le contrôle citoyen sur l'utilisation des revenus du secteur extractif en RDC. Il vient de lancer pour cela la plateforme Mokengeli. Pour en parler, nous recevons son coordonnateur Valérie Mandianga, qui est notre invité. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La situation humanitaire continue de se détériorer dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est en raison du conflit opposant la rébellion de l'FC 123 à divers groupes armés locaux. Selon des sources humanitaires, au moins 32 personnes blessées par balle ou par des éclats d'obus sont prises en charge par Médecins sans frontières, MSF, à Nyanzale depuis le 20 janvier. Entre-temps, le nombre de déplacés internes ne cesse d'augmenter. Précision avec vous, Jean Gandou.
L'incident survenu le 19 janvier 2026 a marqué une nouvelle escalade dans la région. Ce jour-là, plusieurs dizaines de civils mobilisés par les combattants de l'AFC M23 pour des travaux communautaires ont été pris pour cible par les miliciens du CMC dans la localité de Kiyeye dans le groupement de Kiondo. Au moins 32 blessés, pour la plupart des civils, et qui ont été évacués et soignés au centre de santé de Nyanzale. Ils ont été victimes d'éclats d'obus et de tirs, indique Médecins sans frontières. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'organisation humanitaire rapporte également que plusieurs maisons des civils ont été incendiées dans la zone après l'attaque. Les tirs croisés entre les miliciens du CMC Nyatura et les combattants de l'AFC M23 ont été entendus à plusieurs reprises cette semaine. Les affrontements ont touché plusieurs localités des groupements Mutanda, Kiondo et Bukondo au sud de la chefferie de Bwito. Ces violences récurrentes forcent des milliers d'habitants à fuir leur village. Selon MSF, les populations affectées vivent dans des conditions extrêmement précaires, marquées par un accès très limité à l'hygiène, au manque d'abris adéquats et ils font face à une insuffisance de nourriture et une pénurie d'articles de première nécessité. De nombreux déplacés ont pris la direction du nord, augmentant ainsi leur exposition aux risques sanitaires.
Merci Jean Gantou. Nous sommes en Ituri à présent. Les autorités locales de la chefferie de Ndo, en territoire d'Aru, ont lancé les travaux de réhabilitation du pont Ouélé, jeté sur la rivière Kandoy. Cet ouvrage s'est effondré en 2019 sous le poids d'un camion transportant des vivres. Les travaux en cours sont financés par la population locale à hauteur d'environ 90 000 dollars américains. Les autorités de la chefferie sollicitent l'appui du gouvernement pour la remise complète en état de cet ouvrage d'une importance capitale pour l'économie de la région. Autre détail avec Jean-Claude Loki.
Depuis l'effondrement de ce pont il y a plusieurs années, de nombreuses conséquences sont enregistrées dans la zone. Des élèves fréquentant les écoles de Kepira, en territoire voisin de Mahagi, et situés de l'autre côté de la rivière, sont contraints de payer 200 francs congolais par jour pour traverser à l'aide d'embarcations de fortune. Une situation difficile pour les parents, dont la majorité vit dans une grande précarité, selon des sources locales. Les motocyclistes, quant à eux, déboursent 1500 francs congolais par traversée, tandis que les opérateurs économiques font face à des coûts supplémentaires. Cette situation les oblige à revoir à la hausse les prix des marchandises au grand désavantage des consommateurs. Une situation que déplore Dieudonné Tchombé, responsable de la société civile du Congo en territoire d'Aoum.
Tous les produits manufacturés, les ciments qui revenaient dans la CETA entre 2000 francs, actuellement se négocient à 4-6 000 francs. Nous prenons même le cas des tôles qui se vendaient à 20 000 francs, actuellement c'est à 30 000 francs parce que ces commerçants disent qu'ils payent énormément sur la rivière là-bas. 300-400 000 francs.
La réhabilitation de ce pont long de 15 mètres et large de 7 mètres va non seulement faciliter la circulation des personnes et de biens, mais aussi améliorer la mobilité des forces de l'ordre dans le cadre des opérations de traque des groupes armés encore actifs dans la région. Bounia, Jean-Claude Lucky, les Radio Okapi.
Et au sud Kivu, pendant ce temps, la cité de Bounia-Kiri, dans les territoires de Calais, est coupée du reste du monde sur le plan communicationnel. Des réseaux internet de différentes maisons de communication sont en panne depuis 5 jours. Cette situation impacte négativement plusieurs secteurs, dont celui des transactions financières. Un membre de la synergie de communicateurs de Bounia-Kiri explique ce qu'il en est. Il est joint par Jean Kassami.
Dans tout Bouyakiri, il n'y a pas les réseaux Orange, Vodacom, Airtel, il n'y a pas la connexion. Les gens ne savent pas comment communiquer. Maintenant là, je suis dans un petit endroit où il y a la connexion Wi-Fi. C'est ici où je trouve l'occasion de vous alerter autour de cette situation. Notre rédaction s'est entretenue avec les gardiens qui sont au niveau des différentes antennes téléphoniques et qui nous ont rassurés, qui nous ont dit que le problème est au niveau de Kinshasa et que le problème serait résolu d'un moment à l'autre. Mais on ne sait pas trop parce que Vodacom a commencé il y a 72 heures. Maintenant là, on se réveille, il n'y a pas RTL et Orange. Donc tous les trois réseaux, en tout cas, ne fonctionnent pas ici à Bouniakiri. Cette situation impacte déjà sur la situation socio-économique parce que les réseaux facilitent les moyens de transfert de l'argent, mais également sur le plan communicationnel.
Parlons santé à présent, d'abord dans la province du Haut-Lomami où la situation du choléra devient préoccupante. D'après le ministre provincial de la Santé, la courbe est ascendante et les cas se multiplient dans plusieurs zones de santé depuis le début de l'année. Cette situation est aussi aggravée par des inondations observées dans certains quartiers du territoire de Bukama notamment. Dans plus de détails avec le ministre provincial de la Santé, Adela Umbandolo, il est joint par Jean Gandou.
La courbe est ascendante. Les zones les plus touchées sont la zone de santé de Boutumba avec 157 cas de décès, suivi de Kabondo Dianda, 61 cas mais sans décès. Cependant, il faut noter notamment la zone de santé de Kitenge, 43 cas 6 décès, soit 14% de létalité. Et il s'ajoute à ces jours la zone de santé spéciale de la base Kamina avec 3 cas déjà notifiés. Mukanga, 32 cas, 3 décès, soit 9% de létalité. La situation est très préoccupante. Les routes se détériorent et l'approvisionnement pose problème. Il y a déjà insuffisance et ou rupture des intrants dans toutes les zones de santé. La situation est en train de se compliquer avec les inondations qui conduisent au déplacement des populations.
Et au nom qui vaut la prise en charge médicale des patients est critique au centre de santé de référence au Deringeti. Il est situé dans la zone de santé d'Oïcha, à 60 km de la ville de Béni. Sur place, des centaines de femmes, notamment des déplacés venant d'Eringeti et des villages de l'axe Eringeti, Luna Komanda se présente pour accoucher. Mais l'infirmier titulaire de cette structure regrette que les moyens pour les prendre en charge restent très limités. Il sollicite ainsi l'aide du gouvernement et des partenaires. Jonas Kakoulé, infirmier titulaire du centre de santé de référence d'Eringeti, explique la situation. Il est joint au téléphone par Marc Maofimbo.
Nous atteignons facilement 120 à 140 accouchements le mois avec une capacité de 25 lits dans la maternité. Raison pour laquelle nous sommes tentés de signaler le gouvernement s'il peut nous aider. Les 25 lits, c'est signifiant. Aussi avec le matériel que nous utilisons pour les accouchements, donc les paquets d'accouchement sont minimes. Oui, paquets pour les 140 mamans, c'est trop peu. Nous avons aussi un problème au niveau de néonatologie. Il y a des enfants qui naissent malades. Pour les reprises à charge aussi, on utilise toujours les moyens de bord, mais en cas de complications, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les mamans, nous sommes obligés de les transférer vers Oucha. Vous comprendrez avec moi que nous avons aussi des déplacés qui sont dans le milieu, qui n'ont pas aussi les moyens de se prendre en charge par rapport aux médicaments et par rapport aux accouchements qui seraient payants. Là aussi, c'était un grand problème.
Le médecin chef de la zone de santé d'Oïcha reconnaît la situation. Il précise que le plaidoyer est en cours auprès de l'inspection provinciale de la santé et des partenaires du gouvernement provincial. Clôturons cette partie consacrée à la santé à Goma où le suivi vaccinal de Nourousson a été perturbé pendant le dernier trimestre de 2025 dans certaines structures de santé. À la base, le manque des fiches de vaccination, cet outil indispensable qui permet aux soignants et aux parents de respecter le calendrier vaccinal. Si le programme élargi de vaccination PEV a finalement réapprovisionné ces structures en ce début d'année 2026, l'inquiétude demeure. Mais quelles sont les conséquences de cette rupture, Rosalie Zawadi?
C'est sur ces documents que tout est consigné. Vaccins reçus et date des futurs rendez-vous. Au centre de santé Afia Himbi, la réception d'un nouveau lot des fiches ces mois-ci ne règle pas tout. L'infirmier Franck Ndatiguere explique que pour les enfants ayant reçu leur dose sans fiche, reconstituer le calendrier vaccinal est un véritable casse-tête.
Quand quelqu'un n'a pas été enregistré et qu'il faut faire un suivi, ça peut créer des confusions, hein, parce que peut-être que la maman ne saura pas maîtriser le nombre de doses que l'enfant a déjà reçu, et ça peut peut-être faire que l'infirmier puisse injecter des fois le même antigène à l'enfant. Bon, il n'y a pas un danger parce que c'est dans le cadre de renforcement de l'immunité, mais c'est une perte pour nous parce que cette dose que l'enfant reçoit des fois, ça devrait protéger notre enfant.
Selon les médecins coordonnateurs du programme élargi des vaccinations PEV, la province reçoit chaque fois les outils des vaccinations pour couvrir une période de 2 ans. Pour lui, les ruptures observées dans certains centres de santé ne sont pas dues à une pénurie globale, mais plutôt à un défaut des commandes de la part de ces structures. Le docteur Hans Batei rassure que tous les vaccins sont actuellement disponibles en province. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Le gouverneur de la province de la Tchopo a créé depuis mercredi 2 nouvelles régies financières. La direction provinciale de recettes de la province de la Tchopo, DGRPT, est dissoute. Elle sera remplacée par ces nouvelles structures jouissant chacune d'une autonomie administrative et financière. Ces dernières ont la lourde responsabilité de recouvrer au maximum les recettes dues à l'État afin de booster le développement de la province de la Tchopo. Mais qu'en est-il exactement, Jacques Mokonkole?
L'arrêté provincial portant création des 2 nouvelles régies financières date du 21 janvier courant. La première est dénommée Direction générale des impôts provinciaux de la Tchopo, DGIPT en sigle. La seconde est baptisée Direction générale des recettes non fiscales, DGRNF. L'ancienne DGRPT, avec sa pléthore d'agents, plus de 1800, a montré ses limites dans la mobilisation des recettes. Selon l'autorité provinciale, plus de 11 milliards de francs congolais se sont volatilisés entre avril 2025 et janvier 2026. Les 2 nouvelles structures financières sont donc appelées à relever le défi afin de booster le développement de cette entité. Cependant, la dissolution de la DGRPT ne sera effective qu'après installation de la DGIPT et la DGRNF. Le ministre provincial des Finances et son collègue de la fonction publique sont appelés à procéder au recrutement des agents compétents au terme d'un test. Les anciens employés de la DGRPT devront s'y soumettre. Seuls ceux qui satisferont seront repris et affectés dans l'une ou l'autre régie. En attendant la fin de la transition, André Bombombo et Jacques Lomadissa sont nommés d'ores et déjà directeurs généraux respectivement de la DGIPT et de la DGRNF. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Le commissaire provincial de la police, Henri Kassai Central, rejette les accusations de tracasserie portées contre lui par des conducteurs de moto-taxi. Le général Mike Tchianimania affirme que la police ne fait qu'exécuter sa mission régalienne, celle d'assurer l'ordre public. Et d'après lui, ce sont par contre certains conducteurs de moto-taxi qui refusent de se conformer à la réglementation en vigueur, et ce, malgré de nombreuses sensibilisations. On écoute le général Mike Tchiani au micro d'André Katendengalamouloumé.
Notre métier et nos devoirs, c'est le maintien de l'ordre, la protection des personnes et biens, assurer la quiétude publique. Nos amis, les motards, est-ce qu'il y a de la tracasserie? Non. C'est par contre eux qui violentent l'État congolais par leur façon d'agir en refusant d'obtempérer aux injonctions de l'État. Avant de commencer cette opération, nous avons suffisamment averti. Alors, leur recherche de l'argent ne doit pas être une menace qui constitue une obstruction au bien-être des autres. Transporter 3 à 4 personnes sur une moto. Ou alors, il y a de la marchandise derrière et 2 individus sur le réservoir. Ils avaient été avertis qu'il était hors question de transporter des personnes sur les réservoirs. On leur a dit, ici dans ce bureau, pas question de faire du transport en commun, taxi-moto, en babouche. Nous leur avons dit, pas question d'improviser les arrêts, créer des parkings où ils veulent. Une population qui est habituée à l'incivisme, a décidé pour elle-même ce changement-là. C'est comme une femme enceinte qui doit accoucher d'un enfant, ça fait mal. Mais les amis doivent comprendre que la douleur est là. Mais nous pourrons tous faire un changement. Nous voulons que le pays se développe.
Rappelons que mardi, les conducteurs de moto-taxi de Kananga avaient observé un mouvement de grève. Ils accusaient la police de tracasserie. Selon certains d'entre eux, la police saisit leurs engins et leur exige des amendes allant de 300 000 à 500 000 francs en congolais.
Actualité internationale.
En Guinée-Bissau, l'essai clinique d'un vaccin contre l'hépatite B a finalement été suspendu hier après des semaines de flou. Les autorités sanitaires du pays exigent un examen éthique urgent. Cette étude prévoyait en effet de priver 7000 nouveaux-nés d'une dose de vaccin les protégeant des risques de cirrhose et des cancers de foie, un choix qui divise les scientifiques, rapporte AfricaNews.net. Après près de 3 ans de destruction et d'abandon, l'hôpital universitaire Barry, dans le nord de la capitale soudanaise, a enfin rouvert ses portes. Symbole de résilience, cet établissement pillé et ravagé par les forces de soutien rapide en avril 2023 accueille à nouveau des patients. Aujourd'hui, l'hôpital renaît grâce à un financement de plus de 2 millions de dollars américains de l'Association des médecins soudanais américains et islamiques Relief USA.
L'invité.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement CREFDL renforce le contrôle citoyen sur l'utilisation des revenus du secteur extractif en République démocratique du Congo. Invité de Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Valérie Mandianga, explique l'importance de la plateforme Mokengeli que son organisation a présentée hier jeudi à Kinshasa. Valérie Mandianga s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour Monsieur Valérie Mandianga.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la plateforme Mokengeli?
Bon, Mokengeli, c'est une innovation citoyenne. C'est une plateforme, j'insiste, numérique que nous avons mis en place. Cette plateforme permet de rendre populaire les contrôles citoyens. Cette fois-ci, c'est une particularité parce que ce contrôle citoyen sera orienté vers l'utilisation des revenus du secteur extractif. Et cela veut dire que les recettes qui proviennent du secteur minier, mais aussi des hydrocarbures.
Qui font partie de ces projets?
Dans ce projet ici, c'est un consortium de 3 organisations. Vous avez le CREFDEL, le CENADEP, mais aussi le Centre Carter. Et dans ce projet, nous nous sommes répartis de grandes responsabilités. Et ce projet a plusieurs axes d'intervention. Vous avez l'axe contrôle. L'autre axe, c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information qui permettrait à nous de mettre à la portée du public tout ce qu'il y a comme des données relatives à l'utilisation des revenus du secteur extractif. Il y a un autre volet, c'est le renforcement des capacités. Là, c'est plus les CENADEP qui y travaillent pour renforcer les capacités, surtout au niveau des autorités locales. Il y a tout un travail qui sera mis en place pour faire en sorte que la gouvernance s'améliore au niveau local. Le dernier volet, c'est celui qui mettrait en place tous les acteurs. Ça veut dire que des forums seront organisés pour faire en sorte que la société civile et l'État puissent parler le même langage en ce qui concerne la priorisation des politiques publiques.
Ce projet est conçu pour quelle durée?
Le projet est conçu pour au moins 3 ans. On a déjà fait 6 mois et nous devons aller jusqu'à 3 ans. Il y a plusieurs activités qui sont d'ailleurs prévues au-delà de la présentation de la plateforme. Il y a beaucoup d'activités. Vous avez par exemple des études sur les 0,3% du chiffre d'affaires des miniers. Ça, on va être au niveau des ETD. Vous avez aussi des études sur l'utilisation de la redevance minière. Nous aurons aussi des études sur l'utilisation des recettes de catégorie B des produits pétroliers. Là, c'est plus la province du Congo central. Tout ça, ça va permettre à ce que nous puissions pousser au contrôle, nous puissions pousser à la transparence, mais aussi à un dialogue inclusif entre l'État et les acteurs de la société civile.
Pourquoi avoir seulement opté pour les secteurs extractifs?
Vous savez que c'est un secteur qui contribue à plus de la moitié du budget national. Et c'est aussi un secteur qui aujourd'hui contribue plus au PIB national. Ce secteur, c'est celui qui fait en sorte que l'État congolais puisse exister. Et c'est ce secteur qui fait en sorte aussi que les fonctionnaires de l'État soient régulièrement payés. Mais c'est aussi dans ce secteur où il y a plus de corruption. Oui, il y a à manger, à boire. Et c'est aussi dans ce secteur où l'État ne sait pas capter le vrai potentiel de ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut y regarder, pas pour combattre un individu, mais c'est pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer la gouvernance dans ce secteur et en instaurant les dialogues constructifs.
À part CREFDEL, CENADEP et Centre Carter, vous bénéficiez de l'apport des autres bailleurs?
Oui, le projet est financé en totalité par l'Union européenne. Et au niveau local, nous allons mettre en place des équipes. Ça veut dire qu'il y aura au moins dans les 6 provinces où nous allons intervenir, il y aura au moins des organisations ou des consortiums qui vont être recrutés pour compléter l'action. Ça veut dire qu'il y a des études qui seront menées au niveau local pour voir dans quelle mesure on peut organiser la gouvernance du secteur à ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans des provinces, par exemple, du Lualaba, dans le Haut-Katanga, vous allez dans la Tchopo, vous allez dans la Tanganyika, vous allez voir qu'il y a un écart entre les revenus tirés du secteur, les conditions même de vie de la population qui vivent autour de ces industries extractives. C'est pourquoi des projets voudraient rapprocher tous les acteurs et faire en sorte que tous ces revenus puissent contribuer de manière efficace au développement de nos communautés locales.
En marge de la présentation de cette plateforme, avez-vous un message à lancer à tous les Congolais qui vous suivent à travers les médias?
Nous leur demandons de se réveiller, d'accroître les contrôles, d'être très vigilants en ce qui, tout ce qui se passe. Ça veut dire que suivre les politiques publiques, ce n'est pas faire la politique. C'est de faire en sorte que le développement commence par la base, qu'on améliore ce développement à travers les revenus qui sont versés par l'État. Et cela pourra permettre à tous de voir un peu plus clair, mais aussi de savourer les développements tant attendus.
Monsieur Valérie Madianga, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci également à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Jean Gandou. Il vous est parvenu grâce à l'apport technique d'Alain Goy. Bon après-midi à vous tous.